On est dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Et il est vraiment en train de parler de la vie chrétienne la grande idée, c'est oui, nous étions. Et nous étions ceci, cela. Et en fait, une fois qu'on est venu au Seigneur, on se rend encore plus compte de ce que nous étions. Hein, peut-être on pensait que ce n'était pas tout à fait ça, mais une fois qu'on commence à marcher avec le Seigneur, on se rend compte combien nous étions loin et combien notre vie n'était pas à la gloire de Dieu. Et donc, ça fait partie de notre vie chrétienne. Hein, comme nous l'avons dit la semaine dernière, le salut, Christ nous le donne gratuitement, il le fait bien, c'est pour ça c'est parfait et nous pouvons être sûrs du résultat. Hein, s'il dit que nous sommes sauvés, c'est que nous sommes sauvés. Ce n'est pas en voie de notre salut, mais nous sommes réellement sauvés. Hein, et il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Et si on l'a, eh bien, c'est qu'elle est pour toujours. Mais bien, ce soir, nous allons continuer avec le verset 25. La fin, les dernières pensées que nous avons eues la semaine dernière, c'était que nous devons nous dépouiller de ce que nous étions avant, d'être nous renouvelés dans notre intelligence, et puis de revêtir l'homme nouveau que Dieu nous donne, cette nature nouvelle. Maintenant, le verset 25, et je vais lire, donc Éphésiens 4, verset 25, et je vais lire jusqu'à la fin du chapitre, nous dit, c'est pourquoi renoncer. Voyons ces mots-là où ils nous donnent un impératif. Hein, ce n'est pas seulement un petit encouragement et dire ce serait bien si. Non, non. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je pense que s'il fallait choisir un verset clé dans ce passage, eh bien ce serait celui du verset 30 qui dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Hein. Lorsque je suis venu à Christ, il a envoyé le Saint-Esprit, il demeure en nous et il demeure en nous éternellement. Il est là, c'est lui le garant de notre salut, c'est lui qui atteste notre salut, c'est lui qui, par le fait d'être un sot, eh bien, le diable sait à qui nous appartenons. Et donc, nous sommes. Mais il dit, mais le Saint-Esprit est là. Mais vous pouvez rendre son séjour agréable ou vous pouvez rendre son séjour triste. Et agréable, c'est dans le sens que nous sommes obéissants. Nous sommes attentifs à l'œuvre qu'il veut faire, nous marchons dans la direction dont il nous montre, c'est-à-dire nous coopérons avec l'œuvre qu'il veut accomplir en nous. Hein. Il est venu en nous, c'est pour faire une œuvre. Mais si nous coopérons avec lui, et si nous dépendons de lui, nous nous laissons conduire par lui, eh bien, il est dans la joie, parce que c'est une personne, le Saint-Esprit est une personne. Il a des émotions, tout comme Jésus avait des émotions, tout comme Dieu. Hein. Dieu aime, comme Dieu se met en colère, comme Dieu peut haïr et comme Dieu peut être dans la joie et Christ pareil, eh bien le Saint-Esprit aussi. Hein. Donc je dis ça en passant parce que pour certains qui disent que Jésus n'est que le Saint-Esprit n'est qu'une une force ou une influence, et c'est vraiment presque blasphématoire de le diminuer à cela, hein, alors qu'il est une personne. Quelqu'un m'a parlé d'une traduction de la Bible qu'ils avaient, et c'était avec annoté par un prédicateur. Il dit beaucoup de bonnes choses, mais quand il parle de l'esprit, eh bien, il diminue l'esprit. Il dit bon, c'est une bonne influence, c'est une bonne force. Et j'ai eu affaire à ça même ici avec d'autres personnes. Non, le Saint-Esprit peut être attristé par moi. Hein. Et qu'est-ce qui l'attriste? Eh bien, il suffit de lire le contexte. Et on voit, par exemple, verset 25, il dit « renoncer au mensonge ». Il y a la partie Ancien Testament, hein, les 10 commandements qui nous dit « tu ne porteras point de faux témoignages hein, ». Donc, tu ne diras pas quelque chose qui n'est pas vrai. Hein, et surtout pas pour causer la perte de quelqu'un. Hein, mais tu ne porteras pas de faux témoignages. Il dit « renoncer au mensonge ». Mensonge, c'est-à-dire, le mot grec, là, c'est le pseudo. Hein, c'est-à-dire ce qui n'est pas le réel. Hein, en français, on emploie pseudo pour dire « ça ressemble, mais ce n'est pas ça ». Et eh bien, ici, c'est le mot pseudo. Il dit ne racontez pas des choses qui vous faites passer pour du vrai. Hein. Il y a une expression qui est plus récente, là, c'est du fake news. Hein. C'est du news qui n'est pas du news. Hein. Des informations qui sont... Mais ça, c'est constamment autour de nous. On a tellement l'habitude, presque, qu'il y a des choses qu'on laisse passer, on ne fait même pas attention. Mais il dit renoncer au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. C'est-à-dire que ce que tu dis soit vrai. Et que tu aies la réputation que ce soit vrai. Dans le sermon sur la montagne, il dit « tu ne parjureras point ». Dans Jacques, il dit « ce que votre oui soit oui et votre non soit non ». Mais ça, c'est mon oui et oui, seulement si j'ai l'habitude de dire oui, de dire vrai, et les autres ont compris que je dis toujours la vérité. Et une fois que j'ai cette réputation de toujours dire vrai, quand on commence, les gens nous font confiance. Mais si après, il s'avère que c'est pas garanti, eh bien alors là, ils font plus confiance. Après là, il dit, on ne sait jamais si c'est du vrai ou du faux. Il dit, donc chacun, quand vous parlez à votre prochain, parlez selon la vérité. C'est la dernière partie, la dernière phrase dans ce verset qui est intéressante parce qu'il dit... Pourquoi dire la vérité au prochain, surtout entre frères et sœurs? Il dit parce que nous sommes membres les uns des autres. Il dit vous êtes membres du même corps. Pourquoi voulez-vous mentir l'un à l'autre? Hein, si on prend l'exemple physique, hein, puisqu'il parle d'un corps. Pardon. Si on prend l'exemple d'un corps, eh bien pensons à notre corps. Vous imaginez si vos yeux ne disaient pas la vérité à vos pieds? Et puis il y a un mur devant nous, et puis les pieds ne voient pas qu'il y a un mur. C'est les yeux qui doivent lui dire il y a un mur. Et ou bien si les yeux qui regardent disent non, prends pas ça, c'est dangereux. Alors la main, elle se retient. Et, c'est-à-dire, le corps, il est en train de se parler. Les membres du corps se parlent constamment. Et nous comptons sur un corps qui nous dit vrai. Hein. Il y a peut-être des situations où on a mal vu et puis alors après on a chuté ou on a glissé ou l'œil n'a pas averti, il n'a pas dit qu'il y avait de la glace et alors le pied ben, il ne s'est pas rendu compte et après c'est tout le corps qui fait mal, qui a mal. Hein, demandez à Marie-Josée, elle sait ce que c'est, hein, que tout le corps a mal. Là, elle peut le vérifier, hein, s'il y a quelqu'un qui a des doutes. Mais il dit, ne dites pas, parce que vous êtes membres d'un même corps. La vérité de base, c'est que vous êtes tous membres d'un même corps. Et vous avez besoin les uns des autres, vous vous soutenez les uns les autres, vous vous encouragez, vous cherchez le bien des uns des autres. Donc, vous allez toujours dire la vérité. Hein? En français, on a une expression qui dit « la vérité blesse ». Après, elle blesse surtout quand c'est mal dit. Hein. C'est pas forcément la vérité qui blesse, c'est la manière dont c'est dit, ou parfois c'est la personne qui le dit. On lui dit « mais il n'est pas en mesure de me le dire ». Et ça peut nous déranger. Mais si la personne, je dis vrai, et la personne sait que je cherche son bien, elle sait que c'est vraiment pour l'aider, ça blesse moins. Hein, mais parfois, les gens ont dit la vérité, mais c'est plus pour démolir. Et là, il reprend ça un peu plus loin. Là, il va parler de ces paroles qui n'édifient pas. Donc, renoncer au mensonge, ça ne doit pas être une caractéristique. En fait, la caractéristique de l'enfant de Dieu, c'est qu'il dit toujours vrai, même si ça ne l'arrange pas. Même si ça lui crée des problèmes, mais il va dire ce qui est vrai. Hein, c'est là où on exerce la foi, c'est-à-dire je vais dire vrai, même si ça va me faire du tort, je vais dire vrai parce que je compte sur le Seigneur et lui il s'occupera de moi. Hein, parfois, avec le travail, hein, dans le monde, ils s'attendent à ce que une secrétaire ne dise pas toujours la vérité, ou que les représentants ne disent pas toujours la vérité. Il y a quelqu'un actuellement avec qui on est en train de parler qui se trouve dans sa situation. Vous savez, dans la comptabilité, il y a tellement de trucs. Pour un chrétien, c'est difficile, hein, parce qu'il y a tellement de choses qui existent. Et donc, voilà, c'est un témoignage que nous devons avoir. Verset 26, il dit, si vous vous mettez en colère, donc ça va arriver. Et, ou bien, quand vous vous mettez en colère, peut-être qu'on pourrait prendre, c'est le « si » qui a ce sens-là de « quand vous vous mettez en colère, ne péchez point ». C'est difficile, hein, de se mettre en colère sans pécher. Surtout quand si on s'est mis en colère pour quelque chose qui nous concerne. En général, si on se met en colère pour une injustice auprès de quelqu'un d'autre, on est plus rationnel. Hein, quand il s'agit de... Il y a une injustice qui se passe devant nous et on défend la cause et tout cela, en général, on est beaucoup plus correct. Mais quand il s'agit de nous, parfois on se met en colère, on dit des choses. Il dit... Parce que ce n'est pas le fait de la colère. Hein, Dieu nous a donné cette émotion parce que dans la colère, il y a une force qui nous donne le courage de faire certaines choses. Hein. Il y a une injustice, et normalement, peut-être que je ne ferai rien, mais parce que ça m'a mis en colère, je suis capable de le faire. Hein, et de le dire, ou d'avertir, ou de résister. Hein, donc la colère, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est la nature pécheresse qui la rend mal, et l'égoïsme, et l'intérêt personnel, et l'intérêt que nous cherchons. Donc il dit, vous mettez en colère, mais ne péchez point. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est-à-dire, la colère, ce n'est pas bon pour la santé non plus. Et il faut la régler. Parce que sinon, ça peut devenir de l'amertume, ça peut être quelque chose qui nous démange et qui nous détruit de l'intérieur. Et ce n'est pas une bonne chose non plus. En fait, ce verset, il est tiré du psaume... Le psaume 4 et verset 5, où c'est dit un peu autrement. Hein, il est en train de citer la traduction de l'Ancien Testament. Il cite la Septante, la traduction grecque. Mais dans le psaume chapitre 4 verset 5, dans là où il dit « ne vous mettez pas en colère », il dit « ne tremblez hein, ». Tremblez et ne péchez point. C'est-à-dire, c'est pas seulement... Bon, la colère, c'est peut-être un aspect de la chose, mais c'est le fait où je suis vraiment remonté. Et il dit, tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Donc il dit, tu avant de te coucher, tu traites la chose dans ton cœur, tu la traites correctement, hein, surtout, et après, tu t'apaises et tu t'endors. Hein, il dit, donc il peut y avoir une chose qui vraiment t'irrite, qui te remonte, et on a tous vécu cela, et qui nous met en colère, parfois on l'exprime, parfois on ne l'exprime pas, mais le corps le ressent au-dedans de nous. Et il dit, bon. Et peut-être qu'elle est juste, mais traite-la dans ton esprit, dans ton cœur, mets les choses à leur place, mais contrôle la chose, tiens, prends le contrôle de ta situation. S'il y a des choses à régler, règle-les. Si ça, il y a eu une exagération, demande pardon. Et il dit, et puis après, tu peux t'endormir en paix. Parfois, j'entends des gens qui viennent me dire, et dire, ah oui, mais la colère, ah, ça, c'est vite parti. Je peux pas me contrôler. Et ça, c'est un mensonge. Parce que vous avez déjà vu les situations où quelqu'un est à la maison, il y a la dispute, ils sont en train de se crier, monsieur et madame, ils sont en train de se crier dessus. Et puis le téléphone sonne, et un qui était en train de crier sur sa femme, il y a 1 minute, il prend le téléphone. Allô? Comment allez-vous? Ah oui? Et tout d'un coup, il a un contrôle de sa voix, il contrôle sa personne, tout. Il dit, alors tu peux contrôler ta personne, tu peux si tu veux. C'est que tu voulais pas. Et il dit, il dit, tu dois, on doit, c'est-à-dire, je peux contrôler la colère, je dois la contrôler, et ressaisis-toi avant le coucher du soleil, règle les choses. Et si chaque fois que tu te mets en colère et tu exagères, eh bien, va demander pardon. Et à force de demander pardon, finalement, ça coupe l'envie de se mettre en colère. Hein. Et il dit, et il termine la pensée en disant, et ne donnez pas accès au diable. Hein, il dit, Pierre, il dit, le lion rôde autour de nous. Hein, le diable comme un lion rôde autour de nous, cherchant qui il pourra dévorer. Il est constamment à l'affût pour attendre le moment de faiblesse, le moment où la porte n'est pas bien fermée, et pour injecter quelque chose. Hein, le diable est toujours là pour nous faire chuter. Et après, il y a des choses. Après, les dégâts ne sont pas faciles à reprendre. Et puis, on est découragé et presque prêt à baisser les bras. Il dit, ne donnez pas accès au diable. Ne lui donnez pas une opportunité. Il est là. Hein, il est malin. Et il est caché, mais il est toujours là. Et surtout, les enfants de Dieu. Alors là, c'est. Donc voilà, il dit, quand vous mettez en colère, si vous vous mettez en colère pour une juste cause, ça va. Si vous vous mettez en colère, mais ça vous emportez, alors réglez ça pour que la journée puisse se terminer en paix. Verset 28, il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Ça, c'est la réponse, 10 commandements. Tu ne voleras point. Hein? Tu ne déroberas point. Ça, c'est tout ce que ça dit. Tu ne voles point. Hein, tu dérobes point. Donc, tu ne prends pas le bien d'autrui, ni son âne, ni son champ, ni sa femme, ni rien du tout. Tu ne dérobes pas. Mais la partie Nouveau Testament, hein, c'est la deuxième partie du verset, il dit, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Souvent, en tant que chrétien, on dit, mais moi, j'ai rien fait de mal. Et le Seigneur, il dit, mais justement, c'est ça le problème. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas fait ça, mais qu'est-ce que tu as fait à la place? Hein? Et c'est ça la mentalité dans le Nouveau Testament, c'est que ce n'est pas seulement ce que je ne fais pas, mais c'est le fait de faire ce que le Seigneur demande de moi. Hein, il dit donc, plutôt que de voler, prends plutôt travail, et que le Seigneur puisse bénir ton travail, l'œuvre de tes mains, et puisse te donner en plus le moyen de répondre aux besoins d'un autre qui est dans le besoin. Hein. Il y en a qui se maintiennent dans le besoin et qui dépendent de tout le temps. Ça, c'est pas le comportement chrétien. Mais il y a des moments où on n'y peut rien et on est dans le besoin parce que la vie, elle est comme ça. Et donc là, eh bien, c'est à nous, hein, en tant que chrétiens, d'avoir sous le coude, peut-être. Moi, c'est ça que j'ai compris dans le Nouveau Testament. Hein, c'est l'apôtre Paul, il disait aux églises, il dit, écoutez, préparez ce que vous allez donner pour que quand j'arrive, eh bien, tout d'un coup, dit, aïe, j'ai pas tout ça. Non, non, prépare à l'avance, prépare. Il y a des jours où tu mets de côté pour que si jamais un jour il y a un besoin qui apparaît, tu peux répondre. Hein, c'est que tu ne sois pas surpris, pas plus la personne qui est dans le besoin, tout d'un coup, elle se trouve dans le besoin parce qu'il y a quelque chose qui vient d'arriver. Mais toi, tu es prêt et tu peux répondre à ce besoin. Et dans l'Église, c'est un peu l'esprit qui doit exister. Ensuite, il dit, verset 29, et qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Il y a des mots qu'on entend aujourd'hui. À mon époque, quand j'étais gamin, c'était des grossièretés. Maintenant, c'est des mots qu'on entend de partout, c'est devenu du familier. Et personne ne réagit. Moi, ça m'embête toujours. Si ça a été une grossièreté un jour, c'est toujours. Et surtout ce que ça évoque. Hein, vous connaissez, c'est les mots que les gens injectent, ils ne se rendent même pas compte tellement ils ont l'habitude de le dire. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils l'ont dit. Il dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, c'est-à-dire si l'occasion s'y prête, si le besoin est là, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, donc qui construit. Hein, donc il y a un conseil, il y a un encouragement, il y a la citation d'un verset biblique qui est à propos et qui servent à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Hein, il y a des mots qu'on peut dire, mais si l'autre c'est pas bon moment, et ben c'est perdu. Mais s'il a vraiment le besoin et on a une parole qui correspond exactement à ce qu'il lui faut, eh bien il s'en souvient longtemps. Et il dit si tu as si tu as rien de bon à dire, bien tais-toi. Hein, dans un sens, c'est ça qu'il est en train de dire. Si tu n'as pas quelque chose d'édifiant, d'encourageant, qui apporte de la joie ou un conseil, eh bien, il dit, tais-toi. Hein, c'est ça qui est. Verset 30, alors, donc on revient à ce verset 30, il dit, voilà, justement, et de toutes les choses qui pourraient être mentionnées, et il est en train de parler à des chrétiens hein, qui sont réellement sauvés. L'église d'Éphèse, c'est pas Corinthe, c'est une église de chrétiens. Mais il doit le dire, comme dans n'importe quelle église, hein, on a toujours besoin, on est tous là en voie de transformation, en voie de croissance. Hein, donc c'est à des chrétiens qu'il dit de ne plus mentir, c'est à des chrétiens qu'il dit de ne pas se mettre en colère, c'est à des chrétiens qu'il dit de ne pas voler, c'est à des chrétiens qu'il dit de ne pas dire des paroles qui démolissent, qui découragent, qui offensent. Hein, et donc nous devons nous souvenir, et puis c'est dans ce contexte, donc avec ces choses-là, qu'il dit, eh bien, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire, ce genre de choses va attrister le Saint-Esprit. Hein, et si le Saint-Esprit est triste, l'enfant de Dieu sera triste. Je ne peux pas être plus joyeux que l'Esprit de Dieu qui est en moi. Et s'il est triste, je suis triste. Et la seule manière de régler cela, c'est de confesser et puis d'abandonner, hein, d'abandonner et de remplacer par autre chose. Parce qu'il dit, le Saint-Esprit, il est de Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu, et c'est lui qui vous a scellé pour le jour de la rédemption, donc il vous a marqué, hein, vous avez une marque sur vous, c'est un peu comme les enfants d'Israël, hein, quand le Seigneur allait passer sur la ville, et là où il a vu le sang, eh bien, ils ont été sauvés. Hein? Le premier-né était sauvé. Eh bien, dans un sens, le Saint-Esprit nous a marqués. Le jour où le Seigneur viendra pour prendre les siens, eh bien, il dit, ah, hop, toi, toi, toi. Pourquoi? Parce qu'on est scellé, on a le sceau du Saint-Esprit. C'est marqué, hein? On appartient au Seigneur. Je me rappelle avec les moutons, là, parfois ils ont une teinture. Hein, chez les différents bergers, ben, ils ont des couleurs pour leur troupeau. Et après, ils les mettent tous les troupeaux, tous ensemble dans un camion. Ils les transportent, mais quand ils les ressortent, voilà, les couleurs, ça marque, ils sont marqués. Hein, nous sommes des brebis et nous avons le sceau du Saint-Esprit. Et il dit, et nous sommes scellés, pas juste pour faire bien, nous sommes scellés pour le jour de la rédemption. Et il se peut que quelqu'un te pose la question et dit, ah bon, ben, je croyais que j'étais déjà sauvé. Hein, je croyais que c'était à la croix. Ben oui, le nécessaire était fait à la croix. Mais le jour où sommes réellement sortis du péché, eh bien, ce sera ce jour, le jour de la rédemption. Regardez dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Et verset 23, Romains 8, 23 et 24. Donc il est en train de parler, hein, il vient des premiers chapitres, il nous parle de Christ, comment il est mort, comment c'est par la foi que nous sommes sauvés, et tout ça. Donc à partir du verset 8, hein, nous savons que il parle à des chrétiens, à des croyants. Hein, il dit que maintenant il n'y a plus de condamnation sur ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc au verset 23, il dit, et. Donc il parle de la nature qui souffre, hein, du souffre de l'effet du péché. Et verset 23, et ce n'est pas elle seulement, ce n'est pas seulement la nature qui soupire, mais il dit, ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc nous savons que nous sommes sauvés parce que Dieu l'a promis. Mais on n'y est pas encore. Hein, bon, quand c'est Dieu qui promet, c'est comme si on l'avait, mais on ne l'a pas encore. Et c'est un peu comme on sait qu'on attend un nouveau couple, et puis ils attendent le nouveau bébé, et on sait que le bébé vient, et on repeint toute une chambre, mais on sait que c'est un garçon, donc il y a du bleu de partout, et puis il y a les jouets, et tout est en place, tout est meublé. Mais il n'est pas là, il n'est pas arrivé encore. Mais on sait qu'il vient. Hein, donc c'est préparé. C'est un peu, il dit, voilà, le bébé, il est encore dans le sein de maman, mais il vit, il est vivant, il est en pleine croissance, et à un moment, il va faire son apparition. Et donc on a la chambre qui est prête pour lui. Eh bien pour nous aussi, hein, nous sommes nés de nouveau, la vie existe, nous sommes en pleine croissance, et. Le jour de la rédemption, eh bien, nous l'attendons quand le Seigneur viendra pour nous prendre à être avec lui. Verset 24 dit, car ce n'est pas en espérance que nous sommes sauvés. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Donc, il dit, on parle d'espérance. Une fois qu'on voit, on ne parle plus d'espérance. Une fois qu'on l'a obtenu, on ne parle pas de foi. Hein, c'est pour ça que dans 1 Corinthiens 13, il dit, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Il y a un moment où la foi n'est plus. Pourquoi? Parce qu'on l'a. Il n'y a plus rien à croire, on l'a obtenu. Il n'y a plus l'espérance. Pourquoi? Parce que l'espérance, eh ben, on l'a obtenue. Donc, il n'y a plus rien à espérer. Mais l'amour, ça continue. Hein, c'est pour ça, c'est ça qu'il voulait dire. Donc, et après, termine avec les versets 31 et 32. Donc voilà l'exhortation. Après tout cela, eh bien, il dit que, donc la partie négative, que toute amertume, toute, hein, toute amertume, donc à partir du moment qu'il y en a, même si personne n'est au courant, il n'y a que moi qui suis au courant, il dit que toute amertume, toute animosité, hein, il y a quelqu'un que je n'aime pas, que je ne supporte pas, que je n'ai. Mais quand je la vois, je fais semblant, mais pour tout le monde, mais sinon, mais dans mon cœur, je l'aime pas. Toute colère, et la colère, hein, c'est un feu, une petite qui peut être là, hein, qui n'apparaît pas, mais C'est pour ça que ça explose si facilement parfois. Toute clameur, toute calomnie, hein, si on est en train de démolir quelqu'un, en train de parler en mal de quelqu'un, toute espèce de méchanceté, hein, il dit qu'elle disparaisse du milieu de vous. Ça ne doit pas être. Donc ça ne doit déjà pas être en vous pour que ça ne soit pas au milieu de vous, hein, en tant que corps de Christ, Église de Jésus-Christ. Le côté positif, 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Pourquoi compatissants? Ben, c'est sûr que ce n'est pas toujours facile. Mais c'est une forme de l'amour, c'est d'être compatissant, c'est-à-dire je comprends et je suis patient et je suis persévérant. Hein, je comprends qu'il y a encore un petit problème, mais la personne est en train de travailler dessus, je suis en train de l'encourager. Et je ne vais pas l'enfoncer, mais je vais le relever. Hein, donc, je suis compatissant. Et cette compassion, eh bien, elle va me permettre de pardonner, hein, vous pardonnant réciproquement, hein, donc les uns les autres. Hein, toi, tu me pardonnes ce que je suis, moi, je te pardonne ce que tu es. Et il nous dit comment pardonner. Hein, parce que quelqu'un dit, ben, mais pardonner combien de fois? Hein, c'est ça, les disciples ont demandé à Jésus, ils ont dit, mais combien de fois il faut pardonner? Ah, 7 fois! Et il pensait qu'il était généreux. Il dit, non, 70 fois, 7 fois. C'est un bon début. Wow! Ben, ça devient une habitude, hein. On dit 3 fois, c'est une habitude. Alors 70 fois, il dit, vous pardonnant réciproquement. Et ben voilà, il ne nous dit pas combien de fois. Hein, parce que sinon, on aurait un petit carnet, on dit, il commence à exagérer, ça fait 200 fois que je l'ai pardonné. Et il dit, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Combien de fois est-ce que Dieu vous a pardonné? Oh, je ne pourrais pas dire, je ne sais pas combien de fois il m'a pardonné. Et ben alors, il dit, tu ne peux pas être plus dur ou plus juste comme à tes yeux que Dieu n'a été envers toi. Et si Dieu t'a pardonné, pardonne. Et si vous serez jugé du même jugement dont vous jugez les autres, vous serez mesuré du la même mesure que vous mesurez les autres. Alors si tu es dur avec eux, le Seigneur sera dur avec toi. Si tu es tendre avec eux, le Seigneur sera tendre avec toi. Si tu es généreux dans ton pardon, mais le Seigneur est généreux. Hein. Et le Seigneur a dit, hein, si vous ne pardonnez pas, je ne pardonne pas non plus. Ça, c'est un domaine qui est là. C'est pour le chrétien. Il parle en train de parler du salut. Il est en train de parler de la vie chrétienne. Et il dit... le chrétien qui refuse de pardonner parce que il veut se servir de ça comme une punition pour l'autre personne, donc il ne pardonne pas, eh bien, il punit l'autre, mais lui, il souffre. Hein. Lui, il souffre. Et l'Esprit de Dieu est triste en lui, et donc il est malheureux, et ça n'arrange pas la situation. Si on veut vraiment arranger la situation, c'est d'être généreux avec le pardon, et comme ça, le Saint-Esprit est dans la joie, et moi, j'ai la paix dans mon cœur, et il n'y a pas d'obstacle à cette croissance dans le Seigneur et cette relation avec le Seigneur. Donc, voilà. Hein, c'est donc... comment ne pas attrister le Saint-Esprit? Eh bien, soyons selon ce que Jésus a été. Hein, vivons Jésus, hein, tous les jours. Et nous vivrons à la gloire du Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Je ne vous dis pas tout ça parce que moi, je maîtrise tout ça. Mais je vous dis cela parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Hein, et nous devons nous encourager tous, les uns les autres, dans ce domaine. Nous voulons prier. Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi pour ta parole. Tu dis vrai et ça ne blesse pas, mais ça nous encourage. Peut-être c'est notre orgueil qui prend un coup, peut-être, mais sinon c'est notre relation avec toi qui est cultivée. Et Seigneur, nous voulons vivre cette vie que tu as pour nous. Si tu nous as donné, délivré du péché et tu nous as donné le pardon, c'est pour que nous soyons libres, pour pouvoir vivre selon toi et comme tu le voudrais. Et Père, aide-nous et surtout parce que nous sommes un corps et nous sommes membres les uns des autres et nous avons besoin de cela. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces moments où nous pouvons les partager, nous encourager et nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.